Bientôt, on va commencer des séries de réflexions, de prédications sur le thème de la prière pour nous accompagner aussi dans notre cheminement sur les études bibliques. Mais pour l'instant, je continue un peu d'avancer sur l'épître aux Romains dans laquelle je nous ai engagés. Et nous sommes au chapitre 8, on va lire les versets 9 à 11. Trois petits versets. Mais trois petits versets, petits mais costauds. Pour vous, vous n'êtes plus, pardon, vous ne vivez plus selon une logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, bah votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais le souffle de l'esprit de vie est en vous, et parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, alors Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je m'arrête là. Alors Paul est dans sa série de, enfin on est dans son thème là où il veut essayer de trouver une façon d'enraciner les chrétiens à qui il s'adresse dans le fait que vous avez était transformé radicalement. Vous n'avez plus à jouer selon les mêmes règles du jeu qu'avant. Votre vie maintenant repose sur d'autres enjeux que la vie de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Et donc dans ces trois petits versets très chargés, ils sont pleins comme un œuf chacun d'entre eux, il y a trois questions qu'on va avoir. Appartenir à Jésus, être juste et ressusciter. Trois grosses questions. Trois grosses questions. D'accord? La première, c'est le premier verset. Paul dit, mais vous, il s'adresse à l'Église de Rome, mais vous, vous ne vivez pas selon une logique humaine, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque Dieu habite en vous. Cool. Il ajoute tout de suite, la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Mais à qui il pense? On voit que il s'adresse à l'église de Rome qu'il n'a jamais vue. Hein. Il n'est jamais mis les pieds à Rome, il ne connaît pas les chrétiens de là-bas. Il dit, vous avez l'Esprit Saint. Mais celui qui ne l'a pas. Mais c'est comme si il partait du principe que tous les chrétiens à qui il s'adresse, ils ont l'Esprit Saint. Est-ce que c'est s'y croit? Je pense pas. Je pense que il suppose que dans l'église à laquelle il s'adresse, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore reçu cette circoncision du cœur, ce sceau du Saint-Esprit en eux. Mais ce n'est pas à lui de juger, de décider qui est quelqu'un qui a reçu l'Esprit, qui est un chrétien enfant de Dieu quelque part, qui appartient au corps du Christ et qui appartient peut-être simplement à l'Église locale. Quelqu'un qui fréquente l'Église ou qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il s'adresse à l'église locale en présumant que toute l'église locale a reçu l'Esprit Saint. Mais si quelqu'un ne l'a pas, il n'appartient pas encore au Christ, dit-il. Il ne l'applique à personne en particulier, il le pose, tiens, comme ça. Il invite à chacun de ses lecteurs, ou plutôt de ses auditeurs, parce que ses lettres étaient lues publiquement, chacun à se questionner. Est-ce que moi, je l'ai reçu ou pas? Est-ce que moi j'appartiens au Christ ou pas? Pourquoi Paul ne prend-il pas clairement le parti de dire il y en a parmi vous qui et d'autres qui? D'une part, il est dangereux dans l'Église d'opérer ce genre de tri. Ceux qui ont réellement et ceux qui n'ont pas réellement, ceux qui le sont pour de vrai, puis ceux qui pensent l'être alors qu'en fait ils ne le sont pas. Vous savez comment on peut être aveuglé, nous les chrétiens, par de la piété qu'on nous jette aux yeux, par des longues prières pleines de versets bibliques ou par des comportements en apparence très profonds, alors qu'il peut se vivre quelque chose d'autre derrière les portes de la maison, une fois qu'elles sont closes. Certes, il y a des lignes rouges, il y a des choses, des disciplines qui s'appliquent dans l'Église. Mais même dans les circonstances où l'Église va discipliner, va exclure quelqu'un de la table sainte ou de l'assemblée, elle le fera sur la base de faits. Pas sur la base que nous pensons que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. C'est un espèce de discernement qui nous est interdit, bien trop dangereux, et en fait, nous n'en avons pas la prétention de pouvoir le faire. Alors quelque part, Paul nous enseigne et nous montre un exemple en laissant à chacun de se situer par rapport à cette question. Il s'adresse au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu est marqué par le fait qu'il a reçu l'Esprit. Mais ce n'est pas tout. Paul sait que si tous n'ont pas reçu l'Esprit, il sait que tous ceux qui écoutent sa lettre au moment où elle est lue ont reçu l'appel de Dieu à le saisir, cet Esprit, à le recevoir. Vous êtes dans une église ce matin. C'est peut-être votre habitude depuis de nombreuses années. Vous êtes peut-être à l'église parce que vos parents sont chrétiens et que vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes peut-être ici par hasard, cherchant quelque chose ou curieux. Quelle que soit la raison, en fait, il n'y a pas de hasard, ou c'est un hasard Dieu. Parce que lui vous cherche. Si vous êtes là ce matin. Et que cette promesse que la plupart d'entre nous, je le crois, et peut-être tous, nous vivons, il veut qu'elle soit la vôtre. Nous, chrétiens, bénéficions de formidables promesses de justification, de résurrection. Elles vous sont offertes maintenant, alors que je vous parle. Simplement parce que vous entendez cette prédication, cela signifie que Dieu vous veut dans son royaume éternel. Donc, dans une assemblée chrétienne comme la nôtre, il existe deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont reçu la promesse de Dieu et qui la vivent maintenant, et il y a ceux qui l'ont reçue, mais qui ne la vivent pas. Et vous qui m'écoutez, le simple fait que vous soyez présent ce matin signifie que Dieu vous la donne. Il vous reste une chose à faire, la saisir. Dieu donne ses promesses à ceux qui rentrent dans l'Église, à ceux qui grandissent dans des familles chrétiennes, à ceux qui ont épousé des conjoints chrétiens. Un ticket d'entrée, un carton d'invitation qui est dans la poche, mais dont peut-être ils ne font rien encore. Donc pour nous, votre place, si vous n'avez pas encore connu le Seigneur, est bien dans notre assemblée, et vous y êtes le bienvenu aussi longtemps que vous le voudrez. Mais une place sur un banc n'apporte pas l'appartenance au Christ. Seul le don de l'Esprit de Dieu peut accomplir cela. Alors, bonne nouvelle, il n'y a personne ce matin dans cette salle à qui Dieu ne veut pas offrir ses promesses de salut. Personne. Si vous demandez à Dieu ici, là, maintenant, à l'instant, de verser en vous son Esprit, il le fera et vous lui appartiendrez. Et Paul, tout de même, trace une frontière nette. Il y a l'appartenance à un groupe, à une communauté, à une équipe, et puis il y a être en union avec Jésus-Christ. On pourrait croire pour nous que la frontière est floue. Pour Paul, elle est très nette. On y est ou on n'y est pas. C'est un peu comme être enceinte. On ne peut pas être enceinte un peu. C'est comme un parachute. Soit il s'ouvre, soit il s'ouvre pas. Mais s'il s'ouvre à moitié, vous vous écraserez autant que s'il s'ouvre pas. Comment recevoir cet esprit ? Est-ce qu'il y a un formulaire, un test questionnaire, des qualités nécessaires à un entretien de motivation ? La bonne nouvelle, c'est que toute la paperasse a été remplie. Toutes les conditions d'admission ont été remplies. Tous les entretiens de motivation ont été validés par quelqu'un d'autre. Par Jésus. Et en demandant cet Esprit Saint, nous demandons, Seigneur, je veux que tu m'acceptes comme je suis à cause de ses mérites à lui. De ses mérites à lui. Nous sommes beaucoup dans cette église à vivre des mérites de Jésus et pas des nôtres. Lorsqu'on reçoit l'Esprit, nous ne le recevons pas parce que nous sommes justes, parce que nous sommes fidèles, parce que nous sommes performants, mais nous le recevons pour devenir justes et pour devenir fidèles. Alors on passe à ce verset, justement, deuxième, le verset 10. Si Christ est en vous, alors votre corps reste tout de même destiné à la mort, mortel, à cause du péché. Eh oui, je suis marqué par la mort. Mais le souffle de l'Esprit qui de vie est en vous, et vous avez été rendu juste devant Dieu. Si Christ est en vous, dit Paul. Non mais, c'était pas l'Esprit qui devait être en nous d'abord ? Pourquoi il parle de Christ maintenant ? Parce qu'en fait, l'œuvre de l'Esprit Saint, son travail, si vous voulez, c'est de nous connecter à Jésus. De nous connecter, de nous mettre en contact avec lui. Avant de partir, Jésus parlait à ses disciples. Il leur disait « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. » Ok, comment Jésus peut-il habiter en moi et comment moi puis-je habiter en lui ? Il s'agit d'une connexion, d'un contact spirituel. Justement, l'Esprit de Dieu me met en contact avec la personne de Jésus, une contact. Et donc s'il y a un contact entre Jésus et moi, il y a une communication, une transmission qui s'effectue entre lui et moi. Les auteurs du Nouveau Testament emploient des images comme greffer, être plongé dans Jésus ou appartenir à son corps ou être un serment sur le cep. Et l'idée est tout le temps la même. C'est que ce qui est à Christ se communique à moi. D'accord ? Et cette communication se fait pour me transformer constamment jusqu'au bout. Ça signifie jusqu'à ce que tout le péché et tout le mal en moi soient remplacés par ce qui est bon, par ce qui est juste et par ce qui est vrai. Et pourtant, vous et moi, on constate que ces choses traînent, hein, c'est encore là. Mais devant Dieu, je suis couvert par le Christ. Il me voit, non pas tel que je suirais par mes actes ou mes pensées ou ce qu'il y a dans mon cœur, mais justifié à cause des mérites de Jésus. Et là, je vous demande d'être attentif. Vous connaissez tous cette image de il y a moi, et puis il y a Christ qui me couvre, et il y a le regard de Dieu, et Dieu, il voit Jésus, il voit pas moi. Ça va ? Vous connaissez cette image pour la justification ? Il y a un gros problème avec cette image. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'on fait juste un camouflage. Sauf que, comme si ma vraie identité pécheresse, elle demeure, et qu'il y a juste Jésus qui fait écran devant moi pour pas que Dieu voie mon péché. Sauf que c'est plus profond que ça, parce que je ne peux plus sortir de Jésus. Donc ma nouvelle identité, c'est d'être en Jésus. Ce que je suis c'est d'être en Jésus. Je ne suis pas un pécheur qui se cache dans Jésus, en fait. Je suis dans Jésus et donc je suis justifié. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Ou pas. C'est difficile. En fait, je demeure, vous vous souvenez du baptême de Pierre et Matthieu, où j'avais dit qu'être baptisé, c'est comme être plongé, c'est comme la marinade. Tu sais, on plonge les cornichons dans le vinaigre, on ferme le bocal et ils vont rester dans le vinaigre tout le temps jusqu'à ce qu'on les consomme. D'accord ? Et donc, la nature du cornichon, qui est plus proche du concombre normalement au niveau du goût, quand vous le cueillez, va prendre, s'imprégner et être transformé par le vinaigre au point où sa texture, son goût, sa saveur, tout va s'imprégner de ce dans quoi il baigne. Ça va ? Quand je suis dit que je suis en Christ, c'est pareil. Je suis baptisé en lui, plongé en lui tellement longtemps que je prends son goût, que je prends sa texture, que je prends sa saveur, et qu'à la fin, moi, pendant très longtemps, je pensais que le cornichon et le concombre étaient des légumes différents. Ce n'est pas le cas. Mais l'aspect est tellement changé, le goût est tellement changé, que je ne vois plus le lien entre les deux. C'est pareil. Quand on dit, non, oui, mais mes péchés sont cachés par le Christ, ce n'est pas juste un escamotage temporaire, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je suis plongé en Christ et je ne sortirai plus. Je ne sortirai plus. La prochaine fois que le bocal sera ouvert, c'est quand Jésus va revenir pour achever son œuvre en moi. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, oui, mais je suis un pécheur, mais ouf, Jésus me protège, hop, il fait écran, clac. Et moi, je suis derrière, en fait. Mais non, je ne suis pas que derrière, je suis dedans et je ne sortirai plus. Donc maintenant, mon identité, c'est corps du Christ. Mon identité, c'est d'être greffé en lui. Et je ne peux plus sortir parce que c'est lui qui m'a mis là, en fait. C'est là que j'appartiens. Alors, pourtant, je vais quand même mourir, oui. Ma justification, mon appartenance à Christ, le fait d'être connecté à lui, c'est une réalité spirituelle et ce n'est pas une réalité physique, hélas. On le verrait face à face. Et du coup, mon corps reste marqué par ce péché. Ce qui nous conduit au troisième verset. Et si l'Esprit de Jésus habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels qui habite en vous. Et j'adore ce verset, parce que ce verset, il est très précis. Paul, il dit, Dieu va donner la vie à vos corps mortels. À vos corps mortels. Voilà. Vous n'allez pas vous réincarner à votre esprit qui passe d'un corps vieux et nul à un nouveau corps, hein, qu'on ne reprend pas l'ancien. On prend un nouveau corps et ah, je suis passé d'un corps à un autre, du corps A au corps B, et le corps B est mieux que le A. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte parle de résurrection. Hein ? Notre corps est mortel aujourd'hui et demain, mais une graine, un greffon a été planté en lui. Et Paul, de nous dire que nos corps mortels retrouveront la vie au moment choisi par Dieu. Le moment où Christ va descendre des cieux pour revenir sur la terre. À ce moment-là, la poussière que je serai devenue va s'animer par un souffle divin. Mes os vont se reconstituer, mes nerfs, mes muscles, ma peau, mes cheveux, mes yeux, mes dents, mes ongles. Bref. Et mon esprit qui aura patienté dans l'au-delà, auprès du Seigneur, va rejoindre ce corps et je vais vivre à nouveau, pour toujours. C'est ça que Paul dit. Il redonnera la vie à vos corps mortels. Mince, je voulais être grand, je voulais être blond. Ou... Là. Mais il y a des trucs qui vont changer quand même. J'aurai plus de lunettes, on n'aura plus d'acné, ou on n'aura plus de calvitie peut-être, je ne sais pas. On sera délivré du péché en fait, de la mort, de la dégénération, de la souffrance, de la maladie, des handicaps, des douleurs. On aura un corps parfait. Mais ce sera notre corps. Vous voyez, on parle de « il faut naître de nouveau ». D'accord ? Qui est né de nouveau dans cette salle ? Amen. Vous n'avez pas changé de nom, vous n'avez pas changé d'apparence, vous n'avez pas changé de famille, vous n'avez pas changé de pays, mais vous êtes né de nouveau. De la même manière, vous aurez un nouveau corps, mais ce sera le vôtre. De la même manière, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et ce sera la nôtre. Dieu fait du neuf avec l'ancien. Dieu ne dit pas « Ah, ben Satan, il a gâché, alors on va tout jeter à la poubelle et on va refaire un nouveau truc. » Jamais. Il ne fait jamais ça. Dieu ne laisse rien à Satan. Il récupère, il rachète, il délivre, il sauve. Je conclue. Ah, j'ai pas l'heure, je sais pas quelle heure il est 4h20. Hein? Paul veut encourager les chrétiens. Vous n'avez plus à jouer avec les mêmes règles du jeu, avec les mêmes enjeux. Si j'appartiens à Jésus, je n'ai plus à mériter parce que je suis justifié parce que lui à mériter. Je n'ai plus à mériter. Je n'ai plus à douter, à avoir peur de l'échec. Je n'ai plus à avoir peur de faire un faux pas, d'avoir manqué d'effort. Je peux être assuré que je plais à Dieu et qu'il a un regard bienveillant sur moi, qu'il me regarde comme son enfant. Et vous savez, dans notre société très existentialiste, ça veut dire Je suis ce que je fais. D'accord ? C'est moi qui définis par mes actions, par mon comportement, par ce que j'arrive à accomplir ou pas, ma valeur. Grosse responsabilité. Hein ? Grosse compétition, grosse comparaison entre nous. La Bible dit ta valeur. Dieu dit, pardon, par la Bible, ta valeur. C'est moi qui te la donne. Tu es ma fille, tu es mon fils. Et tu as un grand prix à mes yeux, et je t'aime. Et je veux plus que te racheter, je veux te racheter pour travailler, collaborer avec toi, œuvrer ensemble dans ce monde pour préparer la venue du nouveau. Choisis ton camp. Pression sur toi, autodétermination. Autodéfinition, c'est à toi de parvenir à te fixer à tes propres yeux en fonction du monde dans lequel tu vis ta valeur ou reçois celle de Dieu. Et on peut se dire, ah, mais c'est facile alors, on n'a qu'à accepter et croire et puis oh, ça y est, on est super. Ouais, en fait c'est ça, mais c'est super dur. Ça paraît facile, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur de tout le temps revenir à Dieu même pour rien, à Dieu même parce que il l'a décidé en fait. Ça nous dépouille de tout ego, de tout orgueil, de toute prétention, et c'est super dur. Mais c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est l'assurance que cette vie-là, imparfaite et passionnante, pleine de beauté mais fragile, instable, cette vie va devenir un jour et pour toujours une vie de paix, de joie et d'amour. Voilà, je suis sûr que ça va m'arriver. Autour de nous, on a plein de personnes dont un des principaux travaux, c'est de stabiliser leur vie, d'assurer leur vie, de faire en sorte que cette vie soit le plus durable possible. Et on ne va pas se cacher, entre nous, on fait ça aussi beaucoup. On a besoin de ça. Quelque part, on a l'assurance que nos efforts, notre entreprise, notre travail ne sera pas en vain, parce qu'il y a un jour où cette vie parfaitement stable, durable, paisible, va arriver et durer sans fin. Donc rien qu'avec ces deux idées-là, on voit que les enjeux dans la vie du chrétien devraient être impactés par ces promesses, par ces certitudes. Réussir à changer la manière dont on vit au quotidien. Paul a envie que notre regard sur le monde soit transformé par ces assurances. Que notre participation au monde, notre manière d'être présent aux autres, de penser, de parler, d'agir, transpire de cette œuvre que Jésus a faite et va faire. C'est ça le but que Paul recherche. Et peut-être vous avez déjà cette assurance en vous, et il faut que ça grandisse. Comment faire pour grandir ça? Comment faire pour faire grandir cette imprégnation de Jésus en moi là? Trois choses, trois moyens concrets que Dieu a laissés derrière lui, ou Jésus plutôt, pour faire grandir ça. Sa parole, les Écritures saintes, la communauté, la vie communautaire, et enfin, les sacrements, le baptême et la scène. Le baptême, vous êtes plongé en Jésus. On vit dans un monde matérialiste. Il n'y a que la matière et ce qu'on voit. On vit dans un monde existentialiste. C'est moi qui définis qui je suis et c'est par mes œuvres que je deviens. On vit dans un protestantisme anticatholique. Et tout ça nous donne du mal à voir que dans le baptême et la scène, il y a vraiment une réalité invisible, impalpable. Il y a vraiment une présence de Jésus qui est là. Et quand on va le faire là, quand ce pain touche mes lèvres, c'est que du pain, je suis d'accord. Mais ce contact entre Christ et moi, il se rejoue tout à nouveau. Et cette transmission, cette imprégnation de ses bienfaits à lui s'applique à moi tout à nouveau. Peut-être pour certains d'entre vous, la Sainte Cène, c'est dire à Dieu notre foi, notre conviction. Je vous dis, c'est peut-être 5% de moi qui dit à Dieu ma foi et ma conviction, et 95% de Dieu qui me redit son amour. Et je suis appelé à le recevoir. Peut-être vous êtes né dans l'Église, peut-être vous avez été baptisé à la naissance, peut-être vous êtes membre d'une famille chrétienne et donc vous portez ces promesses, cet appel. Ça fait très longtemps que vous savez que, entre guillemets, il faut donner son cœur à Jésus. Je préfère dire qu'il faut recevoir le cœur de Jésus plutôt que de donner son cœur à Jésus, mais ça me paraît plus biblique. Et peut-être que ça ne sert à rien. Peut-être que vous n'êtes pas assez bien, peut-être que vous n'êtes pas assez prêt, peut-être que vous n'avez pas encore assez profité avant de vous ranger sagement à devenir chrétien. C'est tout l'inverse. Ça, c'est encore de l'existentialisme, ça, c'est encore de l'autodétermination. Non, c'est pour devenir comme lui que je reçois l'Esprit. C'est pour grandir à sa ressemblance. J'y arriverai pas tout seul. Je suis incapable de le faire tout seul. J'ai besoin qu'il vienne à moi. Alors n'attendez pas trop. Aujourd'hui est un jour très approprié pour recevoir l'Esprit Saint, je vous le garantis. C'est un très très bon jour. Il suffit de demander sincèrement, Seigneur Jésus, je veux recevoir ta victoire sur la mort, sur le péché. Je veux vivre de tes mérites. et ne plus jamais douter d'être accepté. Amen. Peut-être vous êtes de passage, nouveau venu dans cet étrange monde du christianisme. Tout ça vous paraît bien étrange. Pff, Jésus en moi, moi en Jésus, oulala. Mais peut-être vous avez envie d'en savoir plus. Venez me voir. Venez voir Joël ou Jaco, qui ont parlé au micro, qui sont des anciens, et qui sauront vous partager, vous conduire dans ces choses-là. Enfin, puissiez-vous tous grandir dans votre communion à Jésus, ou puissiez-vous tous entrer dans cette communion à Jésus, ou vous approcher de cette communion à Jésus, car c'est lui que Dieu a envoyé pour sortir notre humanité de l'impasse dans laquelle elle est depuis des millénaires. Nous disons, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen.